Bonjour à tous. Donc là, nous allons parler dans cette table ronde de ce qui fournit toute l'iconographie et l'affiche du festival, c'est-à-dire vers une ville biomimétique, concept que, évidemment, je laisserai les invités définir, est-ce qu'ils le feront bien mieux que moi. Nous avons donc ici Vincent Calbeau, qui est donc l'auteur du dessin de l'affiche, qui est architecte, dont une des réalisations va bientôt prendre corps à Taipei, hein, l'Agora Garden, un bâtiment en forme de double hélice d'ADN, et en ayant plus un projet qui était préféré à Zaha Hadid.
Oui, Zaha Hadid et Norman Foster.
Voilà, quand même. Donc, il a réussi à passer devant, on va dire, quand même des pointures de l'architecture mondiale. Félicitations. Et qui nous donnera des précisions sur la manière dont il conçoit l'architecture et le fait que les visions que nous avons là à l'écran sont moins des visions fantasmées que des projets tout à fait sérieux et calculés pour l'avenir. Jean-Louis Trudel, scientifique de formation en physique, en astronomie, en histoire des sciences, auteur d'une trentaine de textes longs, quelques dizaines de nouvelles, actuellement
Centaines de nouvelles.
Centaines. Ben, j'avais peur de dégagerer, mais c'est pas surprenant. Actuellement président de l'Association des auteurs de SF du Canada.
Ah non, plus
du
15
ans. Mais qui... Je la bio n'est pas à jour.
Il y a quelque chose qui a dû sauter quelque part.
Donc, scientifique et auteur, Michel Ida, qui est entre la science et l'art, fondateur du Minatec Ideas Lab en 2001, dans un pôle en fait, de recherche qui met la sociologie et l'acteur ou l'usager au cœur des innovations de recherche et qui est aussi au cœur de nombreuses activités justement de vulgarisation et de partage. Et Luc Chuitan, dont les habitués d'Utopia connaissent bien les œuvres. Il y a une exposition qui lui a été consacrée il y a quelques années. Architecte bruxellois d'origine, qui a énormément travaillé sur justement l'intégration de l'habitat humain dans des biotopes évolutifs. On peut citer Vegetal City, Archiborescence, Vers une cité végétale ou Habitat Arbre aussi, que j'aime beaucoup, qui est un petit là, dont on avait justement les maquettes il y a quelques années. Mais comme je disais, je vais surtout leur laisser la parole dans cette idée de vers une ville bioclimatique en ces temps de refonte et où on commence à repenser la manière dont nous habitons et plus exactement l'impact de notre habitat. Hein, on est dans un pays, pour ne prendre que la France, où à peu près 40%, si je ne me trompe pas, des besoins énergétiques sont liés, ne serait-ce qu'au chauffage des maisons individuelles. Vous n'êtes pas sans le savoir, depuis le 1er janvier 2013 en France, tous les bâtiments neufs qui sont construits n'ont pas le droit de dépasser 50 kWh énergie primaire par mètre carré, ce qui continue un progrès phénoménal par rapport à ce qui se faisait jusqu'au 31 décembre de l'année dernière, transition qui ne se fait pas sans problème, sans heurts. Le même mouvement est tout à fait dans toute l'Europe. À partir de 2015, tous les bâtiments en Belgique, les nouveaux bâtiments devront répondre aux standards passifs, donc moins de 15 kWh équivalent, enfin moins de 15 kWh au mètre carré, sans toute la complexité et la prise en charge des énergies primaires comme dans la réglementation française. Ceci dit, prendre l'habitat individuel ou simplement des calculs thermodynamiques, ce sont des choses relativement simples et finalement c'est abordé par les unités un problème qui est beaucoup plus global. Et dès qu'on passe à la ville, là on se retrouve dans quelque chose qui est effectivement beaucoup plus complexe, qui affecte l'ensemble de l'organisation de nos sociétés et qui surtout s'appuie sur une histoire. Les villes, en tout cas au XXe siècle, la manière dont on a conçu l'habitat et les villes à partir de la révolution industrielle, du développement des nouvelles technologies, de l'acier, du béton et du verre, on fournit une forme de paradigme qu'on le voit extrêmement bien aux États-Unis avec ces villes verticales, avec ces grandes constructions justement de gratte-ciel, de style international, c'est-à-dire ces grands immeubles de verre, mouvement qui s'est relativement arrêté maintenant aux États-Unis mais qui est repris en Chine et en Asie de manière très très dynamique et sur des échelles encore relativement inconnues. La bataille qu'il y a jusqu'à il y a un demi-siècle aux États-Unis du gratte-ciel le plus haut du monde, aujourd'hui ce sont des compétitions qui jouent en Asie et au Moyen-Orient, avec parfois de manière assez, presque caricaturale. Ce mouvement, en un sens, donc, n'est pas en train de s'arrêter. Ceci dit, en Europe en tout cas, et partout dans le monde, on commence une réflexion sur la manière dont on va transformer notre habitat, de quelle manière peut-on rendre nos villes compatible, durable, et faire en sorte que le développement exponentiel de notre habitat et de notre population ne nous fasse pas, pour résumer, ne nous amène pas à notre propre perte, et en tout cas un épuisement des ressources dont nous dépendons et nous sommes les produits. Donc en ces temps de changement de paradigme, on peut effectivement avoir un discours très inquiet sur l'impossibilité qu'il y a à convertir une ville comme Los Angeles au déplacement à pied ou en vélo, hein. il y a quand même, disons-le, il y a un petit côté cocardier de la part des Européens à voir la manière dont nous avons moins besoin par individu de ressources naturelles que les méchants Américains. Ceci dit, rappelons quand même que nous vivons, nous, dans des villes qui ont plusieurs siècles, qui ont été conçues à un moment où les gens se déplaçaient à pied, puis à cheval, puis avec des carrioles, alors que plusieurs des mégalopoles américaines ont été construites autour de la voiture, et que cette part de l'histoire est fondamentale dans la manière dont ils ont pensé leur espace, dont ils se sont organisés, et donc que l'effort qu'ils auraient à faire de transformation de leur ville et de leur mode de vie serait bien plus impressionnant, rapide et radical finalement que pour nous. Simplement en s'appuyant sur des données simples, géographiques, physiques. Mais, passé ce préambule, juste pour replacer quelques repères dans le débat, je voudrais laisser la parole à nos invités et qu'ils nous définissent en fait ce concept même de qu'est-ce qu'une ville biomimétique. À tout seigneur comme honneur, en commençant par Vincent.
Donc, on fait bien la différence entre biomimétisme et bioclimatisme. Donc, le biomimétisme, c'est le fait de faire de l'ingénierie inspirée des sciences du vivant. Donc, les trois principales sciences du vivant dans les biotechnologies sont le biomorphisme, la bionique et le biomimétisme. Maintenant, dans la nouvelle génération d'architecture, on essaye de plus en plus de s'inspirer des formes de la nature, car la nature utilise toujours un minimum d'énergie par la photosynthèse. Elle essaye toujours d'utiliser un minimum de matériaux. Elle essaye toujours de faire en sorte que tout soit recyclable. Elle essaye toujours de privilégier l'expertise locale et l'interaction entre les êtres vivants d'un même écosystème. Donc, par le biomorphisme, par exemple, on peut créer des formes architecturales ou des schémas urbanistiques qui s'inspirent des formes de la nature, comme par exemple les formes spiralées des nautiles, comme par exemple la structure micro-perlée des carapaces de scarabées qui permettent, dans des milieux désertiques, d'absorber un maximum d'humidité. On travaille aussi avec la bionique, qui, elle, ne s'intéresse pas aux formes de la nature, mais qui s'intéresse aux structures de la nature, comme les structures des feuilles d'arbres, les structures des ailes d'oiseaux. Et enfin, on travaille avec le biomimétisme de façon beaucoup plus large, plus à l'échelle urbaine, pour étudier toutes les interactions justement entre les êtres vivants d'un même écosystème mature, telle une forêt tropicale. Avec ces trois technologies, le but, c'est de créer une architecture, un urbanisme bioclimatique. Le bioclimatisme, c'est quoi ? C'est essayer de faire des bâtiments passifs, c'est-à-dire qui, suivant leur orientation par rapport aux données climatiques, le soleil, le vent, génèrent passivement leur énergie en accumulant l'air chaud en hiver et en étant naturellement ventilés en été. Et ensuite, ces règles de bioclimatique peuvent être implémentées par les biotechnologies, les énergies renouvelables, qui permettent de viser la construction de bâtiments intelligents, produisant eux-mêmes leur énergie et recyclant eux-mêmes leurs déchets. Et on arrive ainsi à un système centralisé de la production d'énergie, à un système décentralisé, un système distribué, où chaque bâtiment devient lui-même sa propre centrale énergétique, que cette énergie soit électrique, calorifique ou alimentaire.
Comme auteur de science-fiction, je n'ai rien à ajouter, préciser ou retrancher sur la ville biomimétique. Mon point de vue sur la question est, en général, purement pragmatique. Y a-t-il dans les conceptions, les idées qui sont générées par une approche bioclimatique, des idées qui me semblent parlantes, susceptibles d'intéresser mes lecteurs, susceptibles de s'inscrire aussi dans une vision plus large de ce que pourrait être un avenir, soit catastrophique, soit tout à fait souhaitable et désirable? Je parlerai un peu plus tard de certains exemples dans la fiction et dans ma fiction, mais sur le concept théorique, je passe la main au prochain expert.
Bon, donc Michel Ida. Donc moi, je travaille au CEA, je suis responsable de l'innovation ouverte et l'innovation ouverte vers la société. Et en ce sens, pour moi, les villes biomimétiques, la question que je me pose en premier, c'est quelle sera la ville de demain et comment va-t-on la penser? Et je suis persuadé qu'on ne peut plus penser l'avenir du bâtiment ou l'avenir des technologies seulement à partir de la science et des technologies, et qu'il faut replacer l'humain au cœur de la conception. C'est en ce sens, vraiment en ce sens, que l'application d'artistes, d'architectes, de sociologues, d'anthropologues dans la conception et dans l'innovation me semble complètement déterminante pour l'avenir. On ne peut pas en même temps penser... hier, par exemple, il y avait une session sur le droit des robots. Si tant est qu'on puisse donner un droit aux robots. Les robots sont des machines. D'accord ? On se pose... Ces questions-là sont des questions de riches, d'une certaine manière. Il suffit d'aller en Inde. L'Inde, c'est plus d'un milliard d'individus, dont plus de 500 millions en dessous du seuil de pauvreté. Quelles représentations se font-ils des villes du futur ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ? Il me semble qu'on a besoin d'impliquer ou d'aller chercher ces regards décalés pour penser la ville biomimétique et penser la ville du futur. Que veut-on pour notre avenir ? Comment replacer l'humain au cœur de la conception ? Et vraiment, dans cette direction-là, le regard de la science-fiction, le regard des auteurs, celui des artistes, celui des architectes, est déterminant et très important. On ne peut plus confier au seul technologue le soin, ou au seul bâtisseur, constructeur de bâtiments, le soin de développer nos villes. D'autant que la ville, ce n'est pas seulement les bâtiments, c'est la mobilité, c'est l'énergie, c'est les territoires, sont les habitants. Moi, j'entends souvent parler de villes intelligentes ou d'objets intelligents. J'oppose à ça, j'aurais envie de dire, la connerie ambiante. Il n'y a pas de ville intelligente, il n'y a pas d'objet intelligent. Ce sont les gens qui sont intelligents ou qui ne le sont pas, mais pas les objets. Et donc, replaçons-les au cœur de la conception, au cœur de l'innovation. Et c'est pour ça que je pousse depuis une quinzaine d'années aujourd'hui cette idée de travailler avec nos concitoyens, de travailler avec tout un tas de corps de métier pour repenser ces choses très complexes qui feront notre futur.
Oui, la définition que Vincent a donnée du biomimétisme est formidable. Elle est très complète, elle explique bien la portée de ce concept. Moi, je pourrais juste rajouter que c'est d'autant plus important aujourd'hui que nous savons que la civilisation industrielle n'a aucun avenir possible parce qu'elle est basée sur l'utilisation du patrimoine de la planète que nous épuisons à une vitesse considérable et que nous sommes de plus en plus nombreux à réclamer un accès à des biens de consommation qui ne font jamais qu'augmenter cet appauvrissement de l'autre côté. On a créé un déséquilibre qui ne fait que s'accentuer. Nous ne pouvons imaginer un futur qu'en regardant du côté des solutions qui peuvent perdurer dans le temps et qui vont vers la recherche d'un équilibre. Pour ça, le biomimétisme est pour le moment la voie principale d'une vision d'un monde différent qui aurait à créer. Vous prenez un arbre, c'est une merveille. Nous n'avons jamais pu créer un bâtiment qui fonctionne aussi bien. Les plans de ce bâtiment, de cet arbre, c'est une petite graine. Vous l'achetez sur le sol, le bâtiment se construit tout seul. Les fondations se creusent dans le sol sans qu'on ait à intervenir. Ils poussent avec la pluie, le soleil, les nutriments qui se trouvent dans le sol et la structure est géniale. Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser ce type de structure pour créer des nouveaux bâtiments faits en contrôlant mieux la manière dont ils poussent, en se servant de tout ce que nous enseigne le vivant? Ça, c'est une des réflexions qui nous vient par le biomimétisme. C'est dans cet ordre d'idées qu'on peut entrevoir plein d'autres choses. Le béton est un désastre pour la planète. C'est le deuxième source de gaz à effet de serre. On peut très bien imaginer qu'on pourra réaliser prochainement un biobéton qui, au lieu de produire du CO2, en capterait. Il y a un béton naturel qui est fait dans des roches volcaniques et qui se fait uniquement en captant, principalement en captant le CO2 de l'atmosphère. Si on peut trouver des solutions pour réparer toutes les erreurs qu'on a faites dans notre environnement, plutôt que de continuer à en faire de plus en plus, évidemment, on commence à se diriger vers des voies qui sont tout à fait intéressantes. Alors, non seulement ça nous permettrait de nous reconnecter, de retrouver nos racines, de nous trouver bien mieux à l'endroit où nous vivons, que nous le faisons, que nous le sommes maintenant, parce que fur et à mesure que l'on voit comment on dégrade notre environnement, ça ne nous plaît pas, évidemment. On se sent mal dans cet environnement-là. Le biomimétisme, c'est trouver un environnement que nous accompagnerions en ayant les bonnes attitudes pour pouvoir faire partie, être une des composantes de cet vaste organisme vivant que seraient nos cités. Donc c'est pour moi surtout imaginer une ville comme l'emboîtement de multiples écosystèmes, comme un massif corallien ou comme une forêt primaire qui travaille en mettant en relation, en faisant des réseaux excessivement complexes de tout le monde vivant qui est connecté pour pouvoir obtenir un équilibre permanent. Quelque chose qui, avec le temps, ne fait jamais qu'augmenter sa stabilité.
Je vais complètement dans cette direction. Actuellement, on travaille avec Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de l'Empereur, qui va d'ailleurs bientôt sortir son film sur la canopée. Ça s'appelle « Il était une fois une forêt ». Et on travaille à la fois sur des univers de bâtiments autonomes qui seraient biomimétiques par rapport à la glace, à l'Antarctique, dans le cas de l'Antarctique, ou à la canopée, dans le cas des forêts primaires. Et ça me semble déterminant d'aller regarder ces différents univers. La ville biomimétique, c'est pas seulement la ville biomimétique la ville que l'on connaît aujourd'hui. Ce sont aussi les villes du futur. Comment ça se passera-t-il lorsqu'on voudra aller habiter dans des zones hostiles, hein, sans parler des planètes. On voit avec Explore Nova le sol de la planète Mars, mais simplement autour des pôles ou dans la canopée ou dans d'autres régions complètement différentes des nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le concept de bâtiment autonome a de l'avenir dans cette direction-là? Et quel est le sens qu'on lui donne dans notre vie de tous les jours? Inversement, dans notre société occidentale, au cœur de nos villes, il y a plein de gens qui vivent dans les rues et qui n'ont pas de logement. Est-ce qu'on est capable de créer des bâtiments autonomes, adaptés à leurs besoins? Est-ce qu'en cas de tremblement de terre, on est capable aussi d'aller réimaginer cette ville biomimétique à toute vitesse pour héberger ces gens qui n'ont plus d'abri, par exemple? Toutes ces questions-là me semblent importantes à traiter aujourd'hui, et on est vraiment on a les possibilités technologiques et la connaissance scientifique qui nous permettent d'aborder ces questions-là.
Donc pour moi, je complète un peu le sujet, juste sur la définition du biomimétisme. Donc en fait, le mot n'est pas génial pour vraiment décrire la discipline, parce que biomimétisme, ça veut dire imiter le vivant. Et donc, ce n'est pas simplement imiter la forme du vivant, j'insiste sur le fait que c'est s'inspirer des processus de la nature dans le respect des cycles de vie, des cycles alimentaires et surtout dans les cycles des déchets. Dans la nature, il n'y a pas de vrais déchets qui ne soient pas recyclables. Si je reprends l'exemple de l'arbre qui a été raconté par Luc, ce qui est génial dans l'arbre, c'est que ces déchets deviennent une ressource naturelle pour les êtres vivants qui vivent à ses pieds. L'être humain, et c'est le gros problème de l'activité anthropique sur Terre depuis 10 ans, n'a jamais vraiment réussi à recycler ses déchets. Parce que quand on a beau trier ses déchets, après une partie est recyclée, une partie est brûlée, ça crée comme un des gaz à effet de serre, et cette boucle-là, c'est la clé du système dont on doit essayer de trouver les solutions dans la nature. Pour expliquer par exemple l'affiche, une nouvelle fois, on pourrait dire voilà, c'est une affiche avatar avec des mondes volants qui ressemblent à rien du tout. La philosophie qui est véhiculée par l'affiche est justement le fait de dire, peut-on renouveler nos déchets en énergie renouvelable à l'infini? Peut-on transformer les contraintes générées par l'homme en opportunités? Donc là, en fait, c'était un exemple qui traitait sur l'agriculture intensive, qui crée des nappes d'algues vertes dans les fleuves et le bord de nos littoraux. Et qu'est-ce qu'on fait de ces algues vertes? Est-ce qu'on les met dans des grands containers, ou est-ce qu'on peut transformer ces déchets en énergie renouvelable? Nous avons commencé à initier des études avec des groupes pétroliers américains qui voulaient inventer la mobilité du futur en disant, est-ce que ces algues vertes, mises en milieu anaérobie, c'est-à-dire dans des bioréacteurs, des aquariums où il n'y a pas d'oxygène, est-ce que ces algues vertes sont capables de venir dégrader biologiquement des déchets plastiques ou des déchets carbonés? La réponse est oui, en transformant ces déchets plastiques en hydrogène. L'hydrogène qui est un gaz naturel, qui ne pollue pas la planète et qui est nécessaire, notamment pour stocker l'électricité dans des piles à combustible et des piles à hydrogène, ou pour créer un gaz volatile, notamment, comme indiqué sur l'affiche, pour créer les éplins du futur qui sont alimentés par le recyclage de déchets. Donc cette logique de transformer les contraintes en opportunités est inspirée directement de la nature. Et le biomimétisme sert non seulement dans la géométrie intelligente des matériaux, dans la gestion de l'urbanisme, mais également dans la création de nouveaux écomatériaux. Je parlais tout à l'heure de la structure du scarabée microperlé. Nous, on étudie actuellement sur un projet à Abu Dhabi, dans un milieu hyper désertique, le fait de créer une toiture qui garde un taux d'humidité de 30% la journée pour venir limiter la climatisation mécanique dans le centre aquatique que l'on construit. Un autre exemple, c'est par exemple le fait de travailler avec de la chimie verte, de la biochimie, pour créer un matériau, notamment par exemple issu du dioxyde de titane, qui est capable, par un effet photocatalytique accéléré, de venir décomposer les particules de plomb qui sont rejetées par les automobiles dans le carburant. Et donc, en tant qu'architecte, on n'est pas du tout omniscient, en tant que physicien non plus. Le secret, donc, c'est de travailler de façon transdisciplinaire pour essayer d'implémenter les disciplines entre elles et d'accélérer l'innovation par cette interdisciplinarité.
Et une chose qui frappe en fait dans l'éventail en fait du biomimétisme, c'est quand on compare effectivement ces projets-là, qui sont des projets où on voit bien l'inspiration, on voit effectivement l'aspect mimétique, mais qui sont quand même des projets, je vais qualifier, c'est pas péjoratif, d'hyper technologiques. Et on a une autre approche en fait qui est presque opposée dans Habitat, dans Archiborescence, où là on va insérer notre habitat de manière déjà plus transitoire, puisque la durée de vie de l'habitat est lui-même dépendant de la durée de vie des végétaux. Même si du bois dans des conditions normales dans le bâtiment, on connaît toujours pas son espérance de vie, parce qu'a priori ça tient plus de siècles que ce que nous on peut se souvenir pour certains habitants. Et m'intéresse de voir justement cet autre aspect qui est celui qu'on retrouve dans Archiborescence, où là on va insérer son habitat et où c'est le végétal même qui de lui-même va fournir les fondations et toute l'architecture et toute la charpente, etc. Et finalement qui va aussi conditionner les rapports des humains entre eux.
Oui, pour moi, cet univers et celui de Vincent ne sont pas du tout contradictoires, ils sont complémentaires. La recherche doit être faite dans tous les domaines possibles. Nous ne devons pas créer des mondes et des solutions qui soient univoques, qui ne développent que dans un sens. Nous allons avoir besoin de toutes les énergies, de toutes les forces pour arriver à créer quelque chose. Moi, j'ai exploré un domaine un peu plus particulier qui est de dire on ne va pas raser nos villes, on va les garder le maximum, tout ce qui est possible de garder, mais on va y rajouter des nouveaux éléments, on va mettre des nouvelles peaux à ces bâtiments, on va les travailler autrement et on va surtout les reconnecter. Je travaille pour le moment assez bien sur Sao Paulo, cette mégapole gigantesque qui a plein de problèmes de fonctionnement, mais juste à côté, dans la forêt atlantique, la température est tout à fait agréable et supportable l'été, tandis que dans la ville, la température est insupportable. Il y a 10-15 degrés de plus que dans la forêt juste à côté. Mais c'est simplement parce qu'on a tout fait à l'envers. On a conçu ces bâtiments en verre et en béton qui surchauffe au soleil. Dans la forêt, il y a une canopée qui crée une ombre, qui crée un microclimat qui est tout à fait agréable. Et dans la forêt de béton, on a mis un conditionnement d'air qui chauffe l'extérieur, refroidit l'intérieur. Et plus on chauffe, plus on refroidit l'intérieur, plus on chauffe l'extérieur, plus il faut refroidir l'intérieur. On est dans des cercles vicieux. On pourrait rentrer dans d'autres manières de voir les choses, simplement en réintroduisant une partie de la forêt équatoriale, de ces plantes épiphytes, dans la forêt de béton, les intégrer de manière à ce que l'on crée à l'intérieur une réponse aux besoins essentiels de l'individu, le nourrir, mais lui offrir un lieu de vie qui soit tout à fait agréable, en prenant les choses à l'endroit. Cette fois-ci, cette hypothèse de travail va tout à fait dans un sens biomimétique. Elle est complémentaire à ce que fait Vincent, qui lui travaille sur des nouvelles structures qui devront elles aussi exister.
Et pensez effectivement à cette approche-là de réintroduire le végétal dans la ville. C'est un peu l'approche qui est en train de se développer en pas mal de villes, hein, de révégétaliser les toits, de revégétaliser les murs. On a déjà les premières expériences absolument magnifiques, ne serait-ce qu'au Quai Branly à Paris, il y en a d'autres. Je crois que si je me rappelle bien, c'est à Tokyo, à partir de déjà maintenant, on n'a pas le droit, à partir d'une certaine surface de toit d'un bâtiment, de ne pas le végétaliser. Mais ce qui me frappait, c'était que finalement, les solutions trouvées par des architectes avec une synergie de compétences au niveau du bâtiment même, ce qui apparaît assez clairement, c'est que c'est qu'un bout de la solution et que finalement la vie biomimétique, et là, je vous redonne la parole, mais aussi, je veux dire, en science-fiction ou plus loin, ça implique des changements finalement plus profonds et des changements qui sont de plus grande échelle et dans la manière qu'on a de vivre ensemble, de vivre avec la technologie et que on n'est pas juste à un niveau d'introduire des technologies qui permettent de réduire notre empreinte. On est dans des modifications qui me semblent plus profondes et plus fondamentale de la manière dont on vit avec notre environnement et par conséquent les uns avec les autres.
C'est dans nos têtes qu'il faut changer. C'est exactement ça. Est-ce que ça a vraiment du sens? Et moi, je crois très fort à cette chose-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument expérimenter. On ne peut pas rester dans les idées simplement. Hein. Ce qui sépare l'œuvre, le génie de la folie, c'est l'œuvre qu'on est capable de réaliser. Donc c'est très bien d'avoir des idées, de les explorer, de les faire avancer, mais il faut être capable de les réaliser, de les tester et de les mettre entre les mains du plus grand nombre pour vérifier que ça a du sens.
Donc, je prends par exemple dans les architectures de Luc et dans mes architectures, il y a beaucoup de bâtiments qui sont recouverts de végétation. Donc souvent la critique c'est de dire oui, voilà, c'est une végétation cosmétique qui est là pour mettre de la couleur verte sur les bâtiments et dire qu'ils sont écolos. En fait, c'est pas vraiment ça. Par exemple, sur le projet Agora Garden qui est en chantier à Taïwan, c'est une tour qui est complètement recouverte de jardins suspendus et de murs végétaux. Et le but c'est quoi ? C'est de isoler un maximum le bâtiment de la chaleur. Là-bas, c'est un climat tropical, il y a 40 degrés, 100% d'humidité. C'est insupportable quand vous sortez dehors, vous avez l'impression d'ouvrir votre four dans lequel on fait rôtir un poulet. Donc, le but, c'est de créer des tampons thermiques par ce système de façade transpirante, car effectivement, la végétation crée un phénomène d'évapotranspiration naturelle qui permet donc de baisser la consommation d'énergie. Donc c'est aussi le but, avant de faire des maisons passives, avant d'intégrer des énergies renouvelables, nous on essaie aussi de travailler avec les investisseurs et les politiciens pour changer la juridiction. La juridiction, par exemple en France, interdit de construire des tours mixtes. Une tour mixte, c'est-à-dire une tour dans laquelle toute l'aile est et sud serait un immeuble de bureaux et toute l'aile ouest et nord serait par exemple un immeuble de logement. Ce qui entraînerait que, par exemple, on chaufferait 50%, la totalité des espaces de bureau la journée, et cette chaleur serait réintégrée dans les espaces de logement le soir. Ce qui, sans énergie passive, sans bioclimatisme, sans énergie renouvelable, baisse la facture énergétique du bâtiment de 50%. C'est actuellement impossible en France. Dans les pays émergents, qui eux ont des législations beaucoup moins sévères et moins poussées, on a, en tant qu'architecte, des champs d'expérimentation beaucoup plus larges. Et donc, je pense que c'est dans ces pays-là qu'on verra les premiers prototypes où on a reprogrammé plus intelligemment la fonctionnalité des bâtiments pour ensuite l'implémenter par les énergies passives, le bioclimatisme et les énergies renouvelables.
Inversement, à plus petite échelle, puisque la ville, ce n'est pas seulement le bâtiment, c'est aussi nos actes quotidiens. Il y a quelques années, quand vous faisiez ce geste-là, ça ne voulait rien dire pour vous. Aujourd'hui, pour tous les gens qui utilisent un smartphone, vous faites ça, c'est agrandir la photo ou c'est accéder à des fonctions. On regarde comment fonctionne le vivant. Si vous allez au bout des stands qui se trouvent là-bas, il y a le dispositif iSketchNote. Hein, et c'est, comment est né ce dispositif? C'est un artiste, encore une fois, impliqué dans nos travaux, Mathieu Belleville, qui a rencontré un historien, Timothée Jobert, et Jean-Luc Valégeot, qui se trouve au bout, et qui lui a dit, moi, ce qui me gêne dans les dispositifs électroniques et informatiques qu'on utilise dans notre quotidien, c'est que le geste n'est pas libéré. Quand je suis devant un stylet sur une tablette graphique, mon geste n'est pas libéré. Et j'aimerais pouvoir travailler comme je travaille devant une feuille de papier ou devant une toile. On a relevé le défi, on l'a présenté l'an dernier à Experimenta, aujourd'hui au Tutopial. Et quand vous regardez comment ça fonctionne, vous pouvez tracer avec n'importe quel crayon, n'importe quel pinceau, sur n'importe quel support, et tout est transmis à l'ordinateur. Ce genre de choses rentre dans notre quotidien. On l'a vu avec les capteurs de mouvement. Quand on a imaginé tous les dispositifs de capture de mouvement que vous retrouvez aujourd'hui dans la Wii, dans les smartphones, dans tout un tas d'objets de la vie courante, dans les compteurs d'aller-retour de piscine, etc. pour Nintendo et pour tout un tas d'autres fabricants, on s'est inspiré des gestes, on s'est inspiré de ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Donc, ce qui veut dire qu'on peut travailler aux différentes échelles, de la pile à combustible qui utilise les algues pour le bâtiment, jusqu'à des petits dispositifs qui, aujourd'hui, rentrent dans notre quotidien et dont on perçoit le sens parce qu'ils nous apportent réellement quelque chose par rapport à notre environnement qui lui-même évolue. Et je crois que c'est dans cette complexité que la ville biomimétique doit être pensée. À la fois les territoires hostiles, mais en même temps, dans nos villes actuelles et dans leur extrême complexité, qui va de la mobilité à l'alimentation, à l'énergie, aux bâtiments et à tout ce qui les entoure. On ne peut plus penser seulement le bâtiment en tant que bâtiment. Je crois que Vincent le sait bien. Le bâtiment est sincère dans son environnement. On ne peut plus se faire abstraction du reste. L'énergie fait partie du bâtiment. Les végétaux qui sont autour, tout ce qui l'entoure, on le voit bien dans cette magnifique exposition, tout fait partie de la construction de cette ville biomimétique.
Et donc effectivement, la base, c'est étudier les cycles. Et donc étudier les cycles entre les bâtiments qui sont classés au patrimoine, entre les bâtiments énergie positive qui vont pouvoir redistribuer leur énergie au bâtiment patrimonial qui, lui, est un vrai filtre à énergie qui laisse tout passer. Et donc effectivement, c'est toutes ces interactions entre les différents bâtiments qui créent la ville, entre les réseaux de distribution qui vont permettre de répartir justement le système d'énergie décentralisé, qui vont permettre aussi de repenser tous les modes de transport public ou privé au cœur de la ville.
Il y a une clé aussi que la science-fiction peut fournir, et qui représente aussi un pas de recul de plus par rapport justement au biomimétisme et bien sûr aux petits gestes de la vie quotidienne qu'on cherche à intégrer dans un fonctionnement plus vert. C'est celui essentiellement, bon, en partie justement du scientifique, du physicien, pour qui la nature ne se limite pas à ce dont mon voisin parlait, mais qui en fait inclut aussi la planète Mercure, les astéroïdes, la planète Pluton, le reste de la galaxie. Et de ce point de vue-là, la nature, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement recyclées ou inutilisées, parce que là, on est loin de l'humain. Et en fait, ce pas de recul d'abord nous fait comprendre à quel point la biosphère terrestre est petite dans l'univers, est une bulle, et aussi ce qui est quelque chose qui a une compréhension qui a évolué au fil des 60 dernières années, depuis Vernadsky et quelques autres, que c'est quelque chose qu'on peut commencer à comparer justement à un organisme. Et je pense que ce concept qui évidemment a été repris par la suite par des gens comme Lovelock et Margulis sous le nom de Gaïa. Ce concept d'organisme est à la fois très utile pour la science-fiction et je pense aussi sous-tend un peu une partie des réflexions que les architectes commencent à avoir sur les villes. C'est l'idée effectivement de quelque chose qui est caractérisé entre autres par l'homéostasie, le maintien de l'équilibre, d'un certain équilibre vivant, de conditions propices à la vie et qui c'est quelque chose que nous recherchons tous. Nous ne voulons pas ni que notre planète, ni que nos villes, ni que nos maisons soient hostiles à la vie. Et c'est là qu'on peut rejoindre un peu ce dont parlait mon autre voisin. Et ce concept d'organisme, là, on entre justement dans l'idée d'une certaine vision holiste, considérer le tout. Et bon, l'auteur de science-fiction va part de principes pour justement penser différents tout. Il peut s'agir effectivement d'équivalent de biosphères en miniature qui peuvent être implantées dans des milieux hostiles, les pôles, sous terre, le fond des océans, éventuellement Mars. Tout est pensable, sinon possible. Et cette vision holiste peut aussi effectivement informer les transformations de nos villes, parce que sans nécessairement que l'auteur de science-fiction puisse proposer des idées nouvelles très précises. Mais l'auteur de science-fiction et la science-fiction, je pense, arrive quand même à défendre depuis maintenant plusieurs décennies cette idée d'organisme, cette idée d'interrelation des cycles qui, du moins dans la nature vivante, donc là j'établis une distinction entre nature vivante et nature qu'on trouve dans le reste de l'univers, des cycles qui justement maintiennent la vie dans le cadre de l'homéostasie. Et c'est là que je vois un peu une différence entre ce que fait l'auteur qui manie des concepts Et l'architecte est un peu, qui en fin de compte est le planificateur, celui qui doit faire fructifier les concepts, rendre cela plausible et concret et fonctionnel. Mais à la base, je pense qu'il y a quand même ces concepts très fondamentaux d'organisme, de tout, de fonctionnement unitaire ciblant, visant une fin tout à fait utile, le maintien de la vie.
Donc, on mesure bien, en fait, à vous écouter, le chemin, voire l'opposition qu'il y a, mais pas vraiment. En fait, l'évolution depuis que les machines à habiter de Le Corbusier, du modernisme, où on va appliquer un modèle grâce aux propriétés d'un béton fabuleusement plastique et solide qu'on peut implanter de la même manière à tous les endroits, on n'est manifestement plus, on n'a plus la possibilité manifestement d'avoir un modèle qui s'applique à tous les points, a priori, parce que j'ai bien compris, à chaque ville sera différente parce qu'elle est à tel endroit, parce qu'elle agit avec telle partie de son écosystème. Ça, c'est la première chose sur laquelle j'aimerais vous faire réagir et préciser. La deuxième chose, comme ça, après, parce qu'il reste un peu de temps, je vous lance tout et vous répondez aux questions qui vous inspirent le plus. La deuxième chose qui frappe aussi, quand on voit vos travaux à tous les deux, dans les modifications du type de vie, c'est les modifications de l'introduction du nomadisme dans vos travaux. On voit qu'on va vers des bâtiments qui eux-mêmes ne sont plus justement des bâtiments liés et qui restent sur un endroit, mais que ça implique des changements fondamentaux. On sait très bien en ce moment, notamment en France, mais de plein de manières, à quel point politiquement et techniquement et concrètement on a du mal à intégrer cette notion de nomadisme dans les sociétés qui sont fondamentalement sédentaires, et le béton n'y est pas pour rien. Et la troisième chose que j'ai envie forcément de vous poser comme question tous les quatre avec votre point de vue particulier, c'est et sans, pour le coup, en se détachant des problèmes politiques réels, c'est quelle sera l'expérience utilisateur de l'habitant d'une ville d'ici 200-300 ans, si tout se passe comme vous l'espérez.
Donc, moi, je vais répondre tout d'abord sur la question culturelle. Le fait qu'effectivement, dans les années 60, on rêvait de créer une architecture, ce qu'on appelait internationale, qui était qu'on pouvait répéter partout avec le même style pour uniformiser toutes les villes du monde. Bon, c'est un peu ce qui se passe parfois actuellement, mais c'est vrai qu'on essaie toujours de créer une identité propre en fonction de la culture. Par exemple, en Chine, toute cette culture du biomimétisme et du bioclimatisme sont vachement importantes, notamment parce qu'elles suivent le mouvement confucéen autour du feng shui et justement du fait que la ville doit toujours être le juste équilibre entre les actions de l'homme et les actions de la nature. Aussi, là donc, on parle toujours de la nature, on s'inspire de la nature dans tout ce qui est, dans toute sa magnificence, dans toute sa beauté, dans tout son progrès technique. Dans des territoires comme l'île de Taïwan, par exemple, là, la nature est plutôt considérée comme un acteur très violent dans la société, qui génère des grandes actions sismiques et des grandes actions typhoniques. Et donc la nature, on a plutôt, à la base, intérêt à s'en protéger plutôt qu'à l'intégrer dans la ville. Donc nous, sur le projet Agora Garden, par exemple, on fait un peu le grand écart entre le fait de rapatrier la nature dans la ville et en même temps s'inspirer des techniques qu'on trouve dans la nature pour avoir un bâtiment qui plie mais ne rompt pas, comme un roseau en cas de tremblement de terre, qui sera stable pendant 400 ans sur une échelle de Richter à 10.0, et la végétation qui est intégrée dans ce bâtiment, c'est pas simplement une petite végétation en pot avec des petits géraniums. Et donc il a fallu, avec des paysagistes spécialisés, penser comment on pouvait recouvrir une tour de végétation dans une ville qui était soumise aux plus gros typhons mondiaux. Donc c'est plein de challenges à étudier. Et donc, en fait, on rêve d'un bâtiment qui serait, comme par exemple le temple d'Angkor Wat, complètement recouvert par une nature architecturalisée qui se serait formée sur un bâtiment patrimonial. Mais en fait, cette nature qui vient envahir le bâtiment, c'est en même temps le pire ennemi du bâtiment pour ce qui est de l'isolation, de l'étanchéité. Donc, en tant qu'architecte, on doit toujours trouver le juste milieu entre le fantasme complet de l'intégration de la nature et la façon de la maîtriser.
J'ai résisté jusqu'à maintenant à l'envie de mettre mon chapeau d'historien, mais bon, je cède à la tentation parce qu'il faut toujours céder lorsqu'elle passe. mon voisin a parlé de fantasmes, de villes entièrement végétalisées. Et en même temps, moi, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir qu'au Canada, d'où je viens, il y a plusieurs villes où essentiellement, si on s'élève un peu dans des bâtiments un peu plus âgés et qu'on surplombe des villes un peu plus âgées, tout ce qu'on voit, c'est la forêt essentiellement. Parce que le modèle d'urbanisme pour des villes relativement petites, mais qui essentiellement dès la fin du 19e siècle fonctionnait avec des tramways et qui dès le début du 20e siècle fonctionnait avec des voitures longtemps avant que les voitures, en tout cas, se généralisent en Europe. L'idéal de la cité-jardin mis au point à la fin du 19e siècle en Angleterre a été, disons, un peu appliqué, bon, presque sans le savoir, mais dans plusieurs villes nord-américaines avec ses maisons individuelles, ses rues bordées d'arbres, des arbres dans le jardin en arrière aussi, des allées parfois à l'arrière des maisons, de telle façon que si la maison a un ou deux étages grand maximum, les arbres surplombent et l'été, on ne voit plus qu'une forêt. Avec quelques poteaux électriques peut-être qui surplombent, et encore, ce n'est pas garanti. C'est une vision de la ville qui a toutes sortes de problèmes, mais elle souligne aussi effectivement les individualités de pays en pays. L'Europe a dû gérer à la fois justement une longue habitude de la concentration et des populations élevées qui déjà, au début du 20e, obligeaient des gens comme Perret et Le Corbusier à vouloir des espaces verts, mais à une époque où on a parlé de la plastique du béton, mais c'est aussi une question de la compréhension des limites avec la technologie de l'époque de tout mariage entre construction et végétation, on scindait un peu les deux. Donc les grandes tours, les grandes barres devaient dégager au sol les espaces verts dont on sentait quand même le besoin. Pour répondre à la seconde partie de la question de Daniel, je suis écrivain de science-fiction et j'ai envisagé dans plusieurs histoires parfois des villes biomimétiques assez futuristes de diverses façons, parfois sur un mode un peu grinçant. Ici, je songe à une nouvelle écrite avec un collaborateur sous le nom de Laurent McAllister et disponible dans un recueil en vente à la librairie, Les leçons de la cruauté. Et en fait, c'est une ville qui a été inspirée par ma visite du musée Underwasser à Vienne et par, effectivement, un peu les conceptions de l'architecte viennois, Underwasser, autrichien ou germanophone, quant à, justement, l'intégration de la nature dans l'urbanisme. Conception sans doute un peu primitive par rapport à ce qui se fait maintenant, mais qui, effectivement, était extrêmement provocant comme idée. Et j'ai essayé, dans cette nouvelle, d'imaginer à quoi pourrait ressembler une ville où les rivières coulent au milieu des rues, les arbres poussent hors des bâtiments. Et ça, c'est une nouvelle qui date, je pense, du début des années 90. Plus récemment, dans un roman pour jeunes, je me suis projeté encore plus loin. Parce que, bon, à partir d'un certain moment, 300 ans, c'est loin. Et il y a beaucoup d'autres technologies qui sont en marche que, disons, que l'architecture. Et je ne me souviens pas nécessairement de tous les détails de cette planète entière essentiellement dédiée à la biomimétique. Mais je me souviens qu'effectivement, en plus, disons, des arbres qui poussent en hauteur sur différents niveaux, il y avait aussi l'idée, au passage, que les arbres pourraient servir essentiellement de pharmacie, et là on parlait essentiellement de l'idée que si on plaquait sa main sur le tronc, déchiffrement, ponction du sang, déchiffrement automatique par des ordinateurs génétiques des problèmes, et sécrétion par l'arbre des médicaments, peut-être sous forme d'une feuille rapidement éclose ou d'une fleur tombant des branches. Ça devient très poétique, mais lorsqu'on se projette à 300 ans de distance, il y a beaucoup de choses qui sont permises. Merci.
Donc, je vais m'inscrire dans la continuité parce que je pense effectivement que la poésie et l'art seront des fils conducteurs pour imaginer ces villes biomimétiques du futur. Dans le passé, la ville, dans les siècles passés, c'était une ville, comme vous l'avez dit, qui est une ville protectrice. On construisait des fortifications pour s'abriter à la fois de l'ennemi, des bêtes sauvages, etc. Elle est devenue fonctionnelle ensuite. Aujourd'hui, on est dans une étape où, bon, c'est un constat, les dernières grosses opérations immobilières, les appartements qui se vendent le mieux, c'est ceux où on a réintégré la nature près des appartements, où on a recréé des potagers pour chacun des habitants, etc. Et donc, ça a vraiment du sens dans notre quotidien aujourd'hui. Demain, on le voit avec des projections comme celle de Luc ou de Vincent, on est dans une ville qui est empreinte de poésie et d'art. Donc, il me semble très important que l'on fasse appel aux auteurs de science-fiction, aux artistes, aux poètes, pour nous aider à décaler notre point de vue et imaginer ce que sera la ville du futur.
Oui, moi, je vais réagir avec quelque chose qui a été dit il y a presque une demi-heure, donc avec beaucoup de retard, je suis un peu lent. Mais il y a une question qui m'a semblé fondamentale, c'est celle sur les mentalités. Qu'est-ce qui fait que les mentalités évoluent? Pourquoi changerait-on de mentalité? Il se fait que durant quelques siècles, deux ou trois siècles, temps de la civilisation industrielle, on est parti sur l'idée que la planète était susceptible de répondre à tous nos besoins. C'était une manne dans laquelle on pouvait puiser sans fin. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Donc là, il y a un changement radical. On nous dit que nos réserves pétrolières, on n'en a plus pour longtemps, l'uranium également, les minerais, etc. Tout ça ont une fin programmée. La civilisation industrielle a programmé sa propre obsolescence. Nous sommes dans un système dont on sait qu'il va bloquer complètement dans peu de temps. Peu de temps à l'échelle planétaire, en tout cas moins d'un siècle certainement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne devons pas attendre la solution là, de là où vient le problème. C'est toujours en cherchant à côté du problème, dans l'alternative au problème, qu'on trouve les solutions. Et ce n'est qu'en changeant les mentalités que l'on peut comprendre qu'on peut trouver des solutions dans des comportements, dans des usages, dans des manières de faire absolument différents. Et qui est cette idée que nous n'allons pas nous entourer d'un ensemble de choses qui vont nous servir sans que nous n'ayons à participer à quelque chose. Donc pour moi, le mot magique qui est employé, c'est se reconnecter. Donc retrouver les liaisons essentielles, fondamentales, avec l'ensemble du vivant qui nous entoure. Nous sommes une petite partie d'un grand tout. Et dès le moment où nous agissons en tant qu'agents déséquilibrants, nous ne pouvons pas nous trouver bien. On ne peut pas trouver notre place, on ne peut pas être épanoui, heureux, on ne peut pas se développer dans un environnement et dans un contexte où on dégrade tout ce qui se trouve autour de nous. Donc la manière de changer ça, c'est dire nous pouvons jouer un rôle positif. On peut être l'élément qui va permettre de se reconnecter et de retrouver une juste place équilibrée avec l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Et là, on va commencer à se dire « mais c'est formidable ce qui se passe maintenant ». On améliore l'ensemble du contexte dans lequel on vit. Et ça se fait de manière solidaire. Ce n'est pas un individu dans son coin, c'est ensemble que ça se passe. C'est un projet formidable qui est excessivement enthousiasmant. C'est essayer de retrouver les liaisons que l'on a coupées, commencer à redécouvrir ce que c'est que le rythme des saisons, hein, ce que c'est que du blé qui pousse, je ne sais pas, un jardin, de l'eau qui coule, le chant des oiseaux, tout ce qui nous manque dans nos villes, qui sont voués à la pollution, au bruit, au désagrément, etc., où on se balade dans des petites boîtes, où nous vivons hors sol, comme l'explique si bien Pierre Rabhi, hors sol, on n'est plus connecté, on a perdu nos racines. C'est là qu'on erre un peu comme des êtres mal en peine. Et là, moi, je pense qu'il y a véritablement quelque chose de passionnant à faire dans ce domaine-là.
Vincent, on voulait réagir sur la notion de nomadisme. Il nous reste quelques minutes à peine, donc je vais laisser Vincent réagir dessus. On aura peut-être le temps de prendre une ou deux questions.
Donc,
je n'ai rien reçu comme projectile, donc on doit pouvoir.
Le nomadisme, juste deux sujets très contrastés. Le premier, c'est le fait qu'en 2050, 75% de la population, donc 75% des 9 milliards d'êtres humains, vivront dans les villes. Donc il faut densifier les villes. On densifie les villes par une hyperconnexion, la dématérialisation, qui permet, via les nouveaux moyens technologiques, de moins voyager, en fait, de devenir plus sédentaire. Et la densification de la ville fera en sorte de rapprocher les lieux où l'on vit, donc nos maisons, des lieux où on travaille. Donc ça va pousser quand même à une certaine sédentarité. Qui sera aussi augmenté par le phénomène de la génération post-carbone, où on va essayer de ne plus asphyxier nos villes par le recours systématique à l'automobile, et donc d'avoir des transports publics plus efficients et de favoriser le vélo, la marche à pied. Donc ça, je pense qu'il va y avoir une accélération de la sédentarité. D'une autre part, il y aura peut-être aussi une envie politique imaginaire de vouloir créer des villes nomades, comme par exemple le projet qu'on a développé de la ville Nénuphar, qui propose une ville autosuffisante en énergie, qui recycle ses propres déchets, qui produit sa propre énergie, qui propose une vie au-dessus de l'eau et en dessous de l'eau, donc une ville amphibienne. Et cela pose la question des futures populations qui sont en train d'émerger, car actuellement, en 2013, il y a dans le monde 50 millions d'éco-réfugiés. Les éco-réfugiés, ce sont les réfugiés climatiques qui sont obligés de changer de territoire d'habitat à cause du dérèglement climatique par principalement la montée des eaux qui provoque la submersion des territoires et la salinisation des terres qui deviennent non cultivables. Et donc, dans notre société contemporaine, je pense qu'on va avoir le phénomène contrasté entre une hypersédentarité et une nouvelle recherche de nomadisme.
Merci beaucoup. Si le peuple de la plante peut faire circuler un petit micro. Il y avait une question juste devant, je crois. Oui, juste devant, là, juste au premier rang. Il y a un homo sapiens sapiens adorable qui arrive avec un micro.
Merci. Oui, très bien. Je suis extrêmement respectueux de vos idées, de vos expérimentations et de vos travaux respectifs. J'ai une question, en fait, j'ai un regret que j'exprime, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un économiste parmi vous. Et j'ai une question par rapport au pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on est pragmatique, on ne peut pas compter sur l'État pour financer des choses, puisqu'il rembourse sa dette. On ne peut pas compter sur les promoteurs pour financer des choses puisqu'ils cherchent du profit. Donc, où est la possibilité? Et est-ce que la possibilité n'est pas de se dire, on va réfléchir sur une, deux générations, aller vers l'éducation et produire des supports pour les jeunes générations, des supports suffisamment évolutifs, en fait, comme quelque chose qu'on pourrait lire d'une certaine façon enfant, d'une autre façon adolescent, et enfin d'une dernière façon adulte.
Je peux peut-être apporter un élément de réponse. Je pense que dans votre question, il y a... évidemment, l'éducation des enfants et ce qu'on leur cède et ce qu'on va céder à nos enfants. Pour moi, il y a un dispositif initiatique qui doit être quasiment initiatique, qui doit se mettre en place pour que, justement, qu'on change dans nos têtes, c'est-à-dire qu'il y ait ce déclenchement. Je parlais tout à l'heure de l'Antarctique. Si on se met à explorer les gisements de pierres précieuses, d'énergie, etc., enfin, de matières premières, etc., qui se trouvent sous l'Antarctique, évidemment, on n'en aura pas pour un siècle, mais pour un peu plus. Sauf qu'on va considérablement changer les équilibres sur la planète. Donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt à re-signer le traité antarctique en 2048? Est-ce que les nations vont re-signer ce traité antarctique en 2048? Et que fait-on aujourd'hui pour s'apprêter à re-signer ce traité antarctique en 2048? Comment faire ça? Ceux qui vont le signer, ou qui décideront de le signer ou de ne pas le signer, ce sont effectivement, vous avez raison, en tout cas en ce qui me concerne, mes enfants ou mes petits-enfants. Si aujourd'hui on ne leur montre pas si ce déclenchement ne se fait pas dans leur tête, rien ne se produira. Et on ira, on continuera dans des voies qui sont quelquefois des voies, des impasses. Donc, à nous d'imaginer les systèmes, entre guillemets, initiatiques, qui vont nous permettre de prendre conscience de ces phénomènes et de ce qu'il faut faire pour le futur, pour pouvoir se préparer et donc développer dès aujourd'hui ce genre de système et de processus.
Donc moi j'essaie de rebondir parce qu'en fait je ne suis pas du tout d'accord avec la première partie de la question. Où le fait, forcément la pédagogie c'est hyper important, préparer les générations futures à inventer un meilleur avenir, c'est évident. Mais dire que, étant donné que le système politique est basé sur des quinquennats ou des responsabilités assez courtes, et dire que les investisseurs de toute façon sont destinés à faire de l'argent, et que du coup on ne peut rien faire, pour moi c'est un peu naïf de penser ça. Et justement je pense qu'il faut travailler avec l'argent, il faut travailler avec les investisseurs, il faut travailler avec les politiques, et en tant qu'architecte, il faut trouver les failles pour leur prouver qu'un bâtiment écologique leur apportera plus d'argent qu'un bâtiment classique. Donc, je prends une petite anecdote pour toujours le projet Agora Garden à Taïwan. C'est une tour de 20 niveaux qui est torsadée. La même tour avec les mêmes niveaux qui n'auraient pas été torsadés, qui auraient été empilés les uns sur les autres, aurait permis de construire 10 000 mètres carrés de jardin en moins. Nous, on a trouvé la faille dans la juridiction de Taïwan qui considérait que tous les balcons à ciel ouvert étaient considérés comme des surfaces de toiture qui pouvaient être construites en plus des 40 mètres carrés initiaux. On a donc construit une tour de 50 000 mètres carrés au lieu d'une tour de 40 000 mètres carrés. Moi, en tant qu'architecte, j'étais vainqueur parce que j'ai pu proposer un concept écologique novateur à la tour, et l'investisseur était vainqueur parce qu'il pouvait construire une tour de 50 000 mètres carrés au lieu d'une tour de 40 000 mètres carrés. Donc je pense que c'est ce type de partenariat et de logique intellectuelle qu'il faut partager. Sinon, on pourra toujours attendre et dire que la génération future fera toujours mieux que nous.
Bon, il faut normalement qu'on rende la scène, quand même. Si vous avez un dernier mot, loin de moi l'idée de vous couper. Ben, je vous remercie tous.
J'ai un dernier mot, mais je le prends à Théodore Zeldin qui disait « Faites de votre vie une œuvre d'art ». Et je pense que ça nous appartient à tous de faire de notre vie une œuvre d'art.
Merci beaucoup. Merci à tous.